France Culture.
Avoinu, quatrième épisode, l'enjeu éthique. Bonjour Marion Muller-Collard.
Bonjour Caroline Brouet.
L'enjeu éthique parce que de fait, fin 2017, vous avez été nommée au CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique, chargé de réfléchir à des grandes questions de la vie, du début à la fin. Et vous y avez été nommée au titre des personnalités philosophiques et spirituelles. Ça, c'est important parce que je crois que dès le début, vous ne vous y sentiez pas nécessairement légitime. Donc au moins, vous y étiez parce que personnalité philosophique et spirituelle. Vous y êtes restée jusqu'en 2024, en étant renouvelée en 2022. Racontez-nous comment vous vous êtes retrouvée là et les grandes questions que vous vous êtes posées en y entrant.
Oui, bah ça fait bizarre le coup de fil de l'Élysée. C'est mon attaché de presse de Gallimard qui me dit que l'Élysée cherche à me joindre. Étonnant. Et j'ai effectivement au bout du fil la conseillère santé d'Emmanuel Macron. Et je m'efforce à lui indiquer des noms protestants qui pourraient... Je me dis, je crois que vous avez pas très bien compris. En fait, c'est un peu à vous qu'on aimerait proposer d'entrer. Et effectivement, c'est un peu vertigineux. Moi, ce coup de fil, je le reçois ici, dans là où le bon Dieu a perdu ses godasses, donc en pleine ruralité, en pleine ruralité, petit village, à cette échelle-là où on arrive encore à mesurer un peu l'impact de nos actions. Et je sais que je vais passer là, si je dis oui, dans une échelle. Qui va être infiniment complexe et en même temps l'aventure est trop tentante donc
vous avez dit oui
pas tout de suite, j'ai pris un temps de réflexion. J'ai entendu plus tard, peut-être dans un avoinu d'ailleurs, Françoise Héritier dire qu'elle avait pris le temps de réflexion pour dire non et qu'on lui avait dit oui, non, non, mais c'est très bien, vous réfléchissez, mais pour dire oui de toute façon. Donc c'est bon, voilà, c'est une offre qui ne se refuse pas.
C'est des années en plus au sein desquelles il s'est passé beaucoup de choses, parce que vous avez été plongé dans le grand bain tout de suite, à vrai dire, dès
avec
2018.
Oui. Les états généraux de la bioéthique.
Exactement, le CCNE a lancé les états généraux de la bioéthique, à l'instar de ceux que le comité a ouverts en vue d'une prochaine loi le 21 janvier 2026. Vous avez réfléchi à des grandes questions à ce moment-là. Donc, la prolongation du délai légal d'avortement, la PMA pour toutes, les variations du développement sexuel, la santé mentale, santé environnement. Il y a eu énormément de sujets. Et puis le Covid donc,
ouais,
est arrivé
le COVID
là-dessus.
Le Covid en plein milieu de ça, ouais, tout à fait. Ouais, mais c'est vrai qu'au début, j'avais un petit complexe de légitimité. Je me dis waouh. Et en fait, c'était intéressant aussi de rebattre les cartes de qu'est-ce que la légitimité, finalement, pour chacun d'entre nous, cette espèce de façon de s'évaluer en fonction des hiérarchies sociales dans lesquelles on a grandi et qui peuvent, en fait, s'évanouir au simple bénéfice de la pluralité. Très vite, je me suis dit, mais en fait, voilà, il y a tout ce que je peux faire, c'est porter ma voix à moi, singulière, effectivement, avec une formation assez atypique qui est celle de la théologie. Et je me suis dit, c'est intéressant, finalement, parce que moi, ma spécialité, c'est un peu le travail sur la question de la croyance, en fait. Et c'était pas du tout inutile au sein du CCNE. Et on est légitime parce qu'on est plusieurs, en fait.
Les autres sont des médecins, il y a des chercheurs.
Voilà, c'est cette pluridisciplinarité-là. Et puis alors, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment l'expérience de Babel. C'est-à-dire que les mots veulent dire... Enfin, si on dit justice à un juriste ou à une théologienne ou à un philosophe, c'est pas la même chose. Donc c'est un travail d'écoute et de transcription qui forme... une espèce d'agora à nul autre pareil, qui à la fois pose sa question de son utilité, en fait, à plein de moments. Hein, on est saisi, on rend des avis, de temps en temps, les décisions politiques anticipent nos propres avis. Enfin,
parfois, les décisions politiques vont à l'encontre des avis
bien
rendus.
Bien sûr,
mais
tout à fait, c'est consultatif.
C'est des recommandations. Mais...
C'est ça, mais en revanche, c'est un espace d'écoute aussi. On fait énormément d'auditions. Donc, et c'est cette expérience... moi, je suis ressortie de là en me disant, si je dois choisir un mot à associer à l'éthique, ce qui garantit, à mon avis, de rester dans une dimension éthique, c'est l'embarras. C'est d'être capable d'embarras. Parce qu'en fait, on part dans des travaux comme ça, on croit qu'on sait ce qu'on pense, qu'on sait où on va aller. Mais c'est ne pas prendre au sérieux toutes les auditions qu'on va faire, si dès le départ, on sait ce qu'on va dire. Donc on apprend à penser contre soi-même, au sein même du groupe du CCNE, et puis aussi à l'occasion des auditions. Il y a des auditions qui nous font chavirer. Et donc c'est une grande expérience d'humilité.
Est-ce que vous, Marion Muller-Collard, vous avez été chavirée par une décision, c'est-à-dire que vous arriviez avec un préavis,
ouais.
Une pensée, une première conviction, et elle a été renversée par les auditions.
Ouais, la prolongation de l'IVG. Je faisais partie du groupe de travail. C'est une gynécologue avec qui j'aimais beaucoup travailler, Alexandra Benaki, qui me propose de rejoindre le groupe. On sortait de discussions très difficiles. Je dis, écoute, je suis fatiguée. Puis on se dit, non mais là, ça va être facile. On se dit tous ensemble, ça va être facile, on va dire non. Voilà, et on a fait un avis positif pour la prolongation, voilà, contre notre préavis, qui était en plus un préavis assez commun au sein du groupe de travail. Parce qu'on a écouté. C'est être capable de vaciller un petit peu et de rendre compte que dans la vie, parfois, on vacille. Et on vacille parce qu'on rencontre, en fait. Et que cette rencontre, si elle ne change rien, si elle ne nous déroute pas, alors on ne rencontre pas véritablement. Je le disais dans nos entretiens précédents, finalement, là, par association d'idées, je fais le lien avec l'aumônerie ou avec beaucoup d'autres choses. C'est ces moments où, au lieu de combler, d'immédiatement recréer de la cohérence, du sens, de la consolation immédiate, une solution, on sonde quelque chose de l'ordre de l'abîme, du vertige. On n'essaye pas tout de suite de colmater. Et le CCNE, finalement, comme l'aumônerie, comme la SIAZ, finalement, j'arrive à me dire que dans ce parcours de vie qui a l'air un peu éclaté, il y a peut-être un point commun, c'est de rester parfois bouche bée, de chercher ses mots, de tâtonner, d'être capable d'inconfort. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une garantie d'être encore capable de prendre des décisions éthiques, ouais.
Il y a plus que ce point commun, me semble-t-il. Alors, c'est plus facile pour moi parce que j'ai le recul que vous n'avez peut-être pas, Marion Muller-Collard. Mais si je prends deux exemples, pendant le Covid, vous avez eu avec le CCNE à décider de si le gouvernement allait ou non étendre la vaccination aux 12-17 ans.
Oui.
Donc réflexion sur l'adolescence, réflexion sur cet âge de la vie et ce qu'on fait avec eux, qui est une réflexion que vous menez depuis longtemps dans vos écrits. Donc au-delà même de la réflexion éthique que vous avez eu à mener, il se trouve que c'était un âge de la vie que vous connaissiez déjà intimement, parce qu'en l'occurrence vos deux fils étaient dans cet âge-là, mais que vous connaissiez aussi par vos réflexions, par votre pensée. Et vous avez pu dire, mais l'enjeu éthique à ce moment-là, c'était finalement moins la vaccination en elle-même, qui était importante, parce que qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Et on ne savait pas trop les effets de la vaccination à ce moment-là. Mais c'était plutôt la manière dont la société traitait sa jeunesse.
Oui. Alors, mais ça, je vais piquer une colère si on parle de ça, parce qu'à chaque fois, ça me remet hors de moi. Cette occasion perdue pour la vie politique de notre pays, pour notre société, de se saisir d'un moment aigu où les jeunes comprenaient qu'ils appartenaient à un corps social. On le comprenait de façon biologique, cette interdépendance et le fait d'appartenir à un corps social. Et au lieu d'utiliser les bonnes vieilles recettes que moi je connais par cœur, puisque je suis un peu spécialiste de la question des croyances et de la religion, la bonne vieille recette de la carotte et du bâton, de la promesse et de la menace, dont on a parlé précédemment sur ces leviers, en fait, sur les consciences qu'utilise la religion depuis longtemps. Mais finalement, en fait, c'est passé dans les mœurs politiques. On croit que pour orienter des décisions, il faut promettre ou faire peur. Voilà. Bon vieux système religieux que je connais par cœur. Au lieu de ça, il y avait l'occasion de créer un espace de conversation et de faire prendre conscience à cette génération qui allait très vite devenir des électeurs de l'enjeu, en fait, du dialogue et du débat en société et de la part qu'ils pouvaient y prendre, en fait. Ils ont instantanément vécu un sentiment de responsabilité qui pesait très fort sur eux, puisqu'ils étaient du coup souvent les porteurs sains quasiment de ce virus, au risque de contaminer des populations plus vulnérables. Ça les a énormément touchés. Enfin, moi, tous les jeunes que j'ai connus, j'ai ensuite enseigné, ils étaient très concernés. Enfin, et cette décision de la vaccination, c'était une décision à la fois intime et politique pour chacun d'entre eux, et qui a été instrumentalisée de façon mais dramatique. L'incitation a été transmise justement à force de com, avec des je me souviens notamment d'un clip où on voyait un jeune qui embrassait sa grand-mère pour son anniversaire et la grand-mère qui finissait en réanimation. Non mais ça va ou quoi? Enfin, je veux dire, ils étaient déjà suffisamment secoués, traumatisés, de clips aussi audio, tu veux pas te faire vacciner, mais t'es égoïste. Je me souviens d'une campagne dans l'Hérault où contre le vaccin, les jeunes pouvaient gagner des menus Burger King. Mais c'est une blague! C'était vraiment leur dire, en fait, oui, il y a que la bouffe qui compte pour vous, donc. Mais c'était, je sais pas, je me suis sentie mais blessée pour eux, en fait, de pas considérer qu'ils étaient capables d'avoir une véritable pensée politique à ce moment-là, et surtout ma peur, c'était qu'ils perdent toute confiance dans les institutions, parce qu'en plus on leur laissait entendre, faites-vous vacciner et votre vie et vous allez pouvoir reprendre une vie normale, et ça, rien n'était moins sûr. Et de fait, le vaccin, s'il a permis de sauver plein de vies et de protéger les plus vulnérables, en fait, il a eu peu d'effet sur la transmissibilité. Il a été un peu décevant par rapport à, on aurait espéré qu'il stoppe la transmission. Ça n'a pas été le cas. On s'est habitué maintenant à vivre avec ce vaccin qui nous permet d'éviter plein de morts dans les populations les plus vulnérables. Mais en fait, on leur a fait une promesse qui, en plus, n'a pas pu être tenue parce que la vie a continué à être complexe pendant encore plusieurs mois pour eux. Et je me dis, mais quelle confiance ils peuvent avoir dans les institutions qui ne les ont pas pris au sérieux, dans leur capacité à juger eux-mêmes d'une décision qui les concernait, qui concernait l'ensemble de la société, au lieu de quoi on est venu activer la récompense stupide de la place de cinéma ou du Burger King, ou la menace, attention, est-ce que tu n'es pas égoïste? Je trouve ça mais désastreux, je m'en suis toujours pas remise, et je pense que bon nombre d'entre eux s'en sont pas tout à fait remis non plus. Voilà. Ça, c'est une grande blessure pour moi, politique, vraiment.
Il y a le deuxième exemple dont je voulais parler, Marion Muller-Collard, qui vous a été inspirée par votre expérience à ce moment-là au CCNE pendant les années Covid. Vous en avez d'ailleurs fait un tract Gallimard, un petit ouvrage. C'est la lettre à Lucie, et c'est le respect du haut mort.
Ouais.
La lettre à Lucie, c'est une adresse que vous faites à une infirmière qui a saisi une cellule d'éthique hospitalière pendant la première vague du Covid-19. Lucie dénonçait un geste très précis qu'elle avait vu. Un brancardier avait posé une valise sur le corps d'une patiente décédée avant son transfert à la morgue. Bon, bah, ça pouvait paraître d'abord secondaire face à l'urgence sanitaire. Oui. Et en fait, vous dites non, il y avait là, et vous l'avez vu, reconnu, un enjeu éthique fondamental, le respect du haut mort.
Ouais, alors en plus de ça, moi je faisais partie de la cellule du coup qu'elle mobilisait dans le Grand Est. On s'était répartis en fonction de nos régions pour répondre à tous ces cas, ces dilemmes éthiques qui nous remontaient directement du terrain. Et c'est vrai que je reçois le rapport de Lucie, donc. Et je me dis, tant pis, quoi. Et je m'endors dessus, et puis en fait, ça m'empêche de dormir. Je me dis, mais est-ce que je suis pas passée un peu vite là-dessus? Et effectivement, bah, c'était tout l'enjeu de cette période-là. C'est-à-dire qu'on était pris dans une urgence, dans une panique, qui peut-être pouvait nous faire perdre de vue. C'est quoi la vie, en fait? C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Vraiment, les grandes questions. Et finalement, elle vient avec quelque chose de relativement anecdotique, parce que on est dans une telle urgence qu'on se dit que peut-être qu'un corps parte avec une valise. Enfin, c'est rien. Ben non, c'est tout, en fait. C'est tout. C'est ce fil rouge, en fait, de notre humanité, qui doit pas se perdre, parce que de tout temps, on est des êtres symboliques aussi. On est des êtres de récit, des êtres symboliques. Et ça paraît, dans les moments de crise, ça paraît secondaire. Et c'est au risque de perdre, en fait, ces symboles qui maillent notre humanité depuis la nuit des temps. Et c'est ça que fait Lucie à ce moment-là. Et prise de remords, mais je me saisis de cette occasion offerte par les tracts de Gallimard de d'écrire un tract de crise qui devient une lettre à Lucie pour voilà cette Antigone du Covid, comme il y en a eu tellement en fait. On s'est comporté comme des bêtes en fait à certains moments. C'est-à-dire que de dire que pour éviter une contamination des mères qui n'ont pas pu voir leur enfant mort, de mettre immédiatement en housse mortuaire des corps sans que les familles puissent les voir. Enfin, je veux dire, on a perdu le nord, quoi. On a perdu la boussole de ce qui fait notre humanité. Il y a de temps en temps, oui, il faut prendre des risques pour ne pas risquer de perdre ce qui nous est le plus précieux, c'est-à-dire nos attachements, nos relations. Et là, en fait, le relationnel, qui est quand même le cœur même du goût qu'on a à vivre. En fait, nous sommes des êtres de relation. Était toujours passé au second plan par rapport à une survie. On n'a pas été capable d'organiser au sein des EHPAD, par exemple, deux sections. Ceux qui disaient, ben non, moi je préfère pas voir mes enfants, ma survie m'est plus importante, tant pis, on se verra plus tard. Et ceux qui librement pouvaient dire, non, moi je préfère rester en relation et tant pis les risques que ça prend. Là aussi, on a infantilisé. Alors on a vieilli les jeunes et on a infantilisé les vieux, quoi. Enfin, c'est parce qu'on n'était pas capable de se parler. On a été pris par une panique. Alors ça, moi évidemment, en tant que chrétienne, lectrice des Évangiles, cette question de c'est quoi la vie en fait, les différents mots qu'il peut y avoir pour dire vie. Est-ce que la vie c'est juste la survie? Enfin, évidemment, ça me travaillait à ce moment-là. Et finalement, Lucie est venue me retravailler à cet endroit-là. Avec cette lettre qui aurait pu passer à la trappe.
Moi, j'imagine que c'est avec ces questions-là, sur la vie, sur la mort et leur signification, Marion Muller-Collard, que vous avez eu aussi beaucoup d'embarras quand le CCNE a rendu en 2022 un rapport ouvrant la voie législative à une aide active à mourir. C'est un avis extrêmement important. C'est celui qui a donné lieu après à la Convention citoyenne sur la fin de vie. C'est un avis qui insistait sur la nécessité de renforcer les soins palliatifs, qui réaffirmait aussi deux principes importants, le devoir de solidarité envers les personnes les plus fragiles et le respect de l'autonomie de la personne. Et là, vous avez été un peu tiraillée.
J'ai été très tiraillée. J'ai fini par signer. On était 8 membres du CCNE à signer un avis divergent. Moi, je l'ai fait pour des questions politiques, dans une situation effectivement de, oui, je le dis, de non-confiance politique. L'hôpital est en crise, était déjà en crise et de plus en plus en crise en fait. Et je voyais pas que cette évolution législative puisse permettre un avis éclairé et libre devant une situation de fin de vie, dans le sens où il y a tellement de défauts de soins. Tant qu'il y a que 50% d'accès aux soins palliatifs, forcément, je pense qu'il y a des choix qui peuvent se tourner vers une aide médicale à mourir par défaut de soins. J'ai pas de problème, moi, éthique. Ni même spirituel avec une aide à mourir quand tous les meilleurs soins en fait, y compris humains, relationnels, ont été garantis et que la demande est insistante. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait 100% d'accès aux soins palliatifs. Donc en fait, ma petite formule, c'était de dire, pour moi, l'aide médicale active à mourir, c'est la cerise sur le gâteau d'une politique de santé irréprochable. Il n'y a pas de gâteau, on ne peut pas poser la cerise. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas tellement changé d'avis. Mais je reste très tiraillée parce que je vois bien que peut-être il n'y aura jamais de gâteau. Alors est-ce qu'il faudrait déjà pas au moins une cerise? C'est ce que, de temps en temps, des gens me rétorquent et j'entends. J'entends, j'ai dû, à ce moment-là, faire un choix. J'ai fait celui-ci. Je dis pas qu'il est inébranlable, en fait. Mais c'est vrai que ça fait 30 ans que le CCNE appelle au développement des soins palliatifs et que le politique en face ne répond pas. C'est-à-dire, on est une société qui n'est pas arrivée à garantir 100% de prise en charge en soins palliatifs pour tous les patients qui pourraient relever de ce type de soins. Voilà, c'est-à-dire il faut donc baisser les bras et dire « Ok, donc vous arrêtez à 50%, donc fatalement, on va devoir trouver une alternative pour défaut de soins qui va être soit l'euthanasie, soit l'aide médicale à mourir. » Enfin, voilà.
Est-ce que ces réflexions, en particulier celles-ci, sur la fin de vie, sur la mort, vous ont servi d'un point de vue spirituel, d'un point de vue éthique, d'un point de vue humain ? Quand vous avez eu, affaire avec une épreuve de vie qui est récente et qui a touché votre papa.
Mm-hmm.
Épreuve que vous avez racontée dans le livre L'ordre des choses.
Oui.
Un accident lourd, puisque votre père a eu un AVC. Et vous racontez les jours qui ont suivi. Est-ce que ça vous a aidé, cette expérience au CSCNE et toutes les choses que vous avez brassées pour affronter ce qui vous arrivait, un peu comme le livre de Job et Félix en son temps?
Oui et non. C'était les travaux pratiques. Ah oui, moi je suis l'experte de penser les choses et après d'avoir les travaux pratiques. Donc effectivement, j'avais pas fait le lien. Donc travaux pratiques, AVC massif de mon père, qui m'avait toujours dit uniquement oralement, sans écrire ces fameuses directives anticipées. Si un jour il m'arrive un truc comme ça, faut pas faire chier l'ancien, quoi. Ce qui signifiait dans son langage, laissez-moi mourir tranquille, pas d'acharnement, pas de voilà. Il se trouve que comme ça avait pas été écrit et dans la panique de l'accident, moi j'étais pas là, ma maman était déboussolée. Le choix a été fait de le réanimer. Et il en est resté lourdement handicapé jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, c'est ce que des études appellent le disability paradox. Effectivement, si vous voulez, l'imaginaire de bah, si tout à coup je peux plus du tout être libre de mes mouvements, de ma vie, de mes décisions, je préfère mourir. On sait ce qu'on se dit en bonne santé. Et aujourd'hui, de fait, c'est pas quelqu'un qui... Il lui arrive son pire cauchemar, en fait, et il ne réclame pas de mourir. Donc, j'ai révisé ma copie. Enfin, je l'ai pas révisé parce que c'était des choses, justement, aussi qu'on défendait dans notre avis divergent de remettre en avant ce disability paradoxe. C'est-à-dire, notre imaginaire galope toujours vers l'horreur. Et comme je le disais par rapport à Félix, cette idée, enfin, ce moment où je regarde, ce documentaire sur l'hôpital Necker, mais non, jamais de la vie, je me braque, mais non, ça ne m'arrivera pas, ça ne peut pas m'arriver, je ne veux pas que ça m'arrive. Bon, bah, ça m'arrive. Et ça se vit, ça se traverse, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive très bien à se représenter l'horreur, on n'arrive jamais à se représenter la grâce. Si je reprends le sous-titre de l'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce. La grâce, c'est ces moments où tout à coup nous est donné une force, je le dis peut-être avec un vocabulaire un peu de croyante, mais je pense que ça peut parler à tout un chacun. C'est en tout cas, voilà, on finit par avoir la force de vivre quelque chose qui nous paraissait impossible à vivre, et même peut-être à y trouver, si ce n'est du sens, au moins un certain nombre de saveurs. Et mon père, de temps en temps, quand il est dans la plainte, je lui dis « Écoute, papa, si tu veux, on arrête de te nourrir et ça peut aller très vite. Et je te prends avec moi à la colo, tu regarderas le paysage que tu aimes et je prendrai un congé sans solde, je te tiendrai la main, on restera à côté. » Il me dit « Oh non, quand même pas. » Je dis « Bah allez, on continue alors. » Et donc c'est vraiment cet embarras aussi de pas chercher absolument à résoudre. Et c'est vrai que ce qui m'embarrasse notamment, c'est que je trouve que c'est une super bonne idée, les directives anticipées. Mais en fait, je ne crois pas qu'on puisse anticiper quoi que ce soit dans la vie, en fait. Ni nos propres forces, ni ce dont on aura encore le désir dans une situation qu'on ne connaît pas encore. Et en particulier dans une société qui a quand même beaucoup axé les choses sur nos compétences, nos performances. On est tous dans une angoisse folle de perdre. En fait. Mais voilà, de temps en temps, on joue à qui perd gagne. Et quand on perd quelque chose, on gagne autre chose qu'on ne peut pas encore mesurer. Et je crois que mon père aujourd'hui n'est pas malheureux. Et ça, bah oui, il n'aurait pas pu l'anticiper ni l'imaginer. Est-ce que ça m'a aidé d'avoir pensé tout ça? Non, je pense qu'en tout cas, peut-être que parmi les membres du CCNE, comme je viens aussi avec cette dimension littéraire, j'étais jamais dupe de la pure pensée, en fait. On est dans une culture très platonicienne qui a hiérarchisé le monde des idées par rapport au monde sensible. Ça nous vient de Platon. C'est quand même un peu fou parce que même le christianisme, qui est quand même normalement censé être un contrepoint de ça, a été encore récupéré par cette pensée très platonicienne. On a quand même un problème avec le corps, on a un problème avec le sensible. Et moi, en fait, ce sensible, il revient toujours par la littérature, en fait, par cette recherche des mots et qui commence dans la bouche, enfin qui passe par tout le corps. Et donc, j'étais jamais dupe qu'une idée puisse résoudre quoi que ce soit, en fait. Donc, cette cet immense tambour émotionnel dans lequel j'ai été plongée au moment de ce coup de fil m'annonçant l'AVC massif de mon père, en fait, il m'a refait plonger plutôt dans la littérature, c'est-à-dire dans cette approche purement sensible où j'accepte cet embarras que vole en éclats, en fait, plein de choses qu'on a pu élaborer soigneusement dans ces comités-là qui sont à la fois importants et à la fois qui n'ont ni l'alpha ni l'oméga de la réponse, des réponses aux grandes questions vertigineuses. Les questions vertigineuses, elles resteront vertigineuses. On pourra légiférer autant qu'on voudra, on pourra en parler autant qu'on voudra. Et ce vertige-là, pour moi, ça ouvre un autre espace qui est effectivement celui de la littérature et qui fait que je vais me reporter vers un récit comme celui de l'ordre des choses plutôt qu'écrire un essai sur ces questions-là, quoi.
Mais ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui ne vous a pas fait changer d'avis? Sur votre avis ou sur l'avis du CCNE
non,
sur la fin de vie, alors que vous auriez pu vous dire, bah oui, c'est un cas pratique et chaque cas est unique.
Oui, c'est ça.
Mais il faut légiférer sur la société.
C'est ça.
Donc la difficulté, elle est aussi là. Quand on le vit intérieurement ou réellement, personnellement, ça peut complètement chambouler un avis qu'on donnait de façon générale parce qu'il ne s'adressait pas à quelqu'un qu'on connaît de proche. Donc non. Là, vous êtes resté presque dans votre indécision, mais avec votre avis à vous, quoi.
J'ai gardé mon inclinaison. Mais parce que cette sensibilité dont je parle, pour moi, elle se joue déjà dans l'écoute, en fait, dont je parlais en amont, à travers les auditions. De ne pas vouloir, en fait... absorber la parole de l'autre pour la faire rentrer dans notre système. J'ai souvent cette métaphore des belles-sœurs de Cendrillon, ce côté pathétique à vouloir faire rentrer le pied dans la chaussure, quoi. On est souvent comme ça, quoi. On a nos grilles de lecture, nos convictions, nos idées, et on veut que tout rentre dedans, quoi. Et c'est ça que j'appelle l'éthique de l'embarras, c'est de renoncer aussi à faire rentrer le pied dans une chaussure qui n'est manifestement pas la bonne, quoi. Et d'accepter d'aller pieds nus, parfois aussi, hein. Et voilà. Et pour moi, je crois que peut-être que ce qui m'a aidé, c'est plutôt d'être habitué à être dérouté, plutôt que d'avoir élaboré des avis qui seraient, particulièrement bon et pour la postérité je reviens vraiment à l'éthique de l'embarras.
Je pense que c'est
je suis embarrassée titre... de vous le dire, Caroline.
Je pense que c'est le titre qu'on va prendre pour cet épisode, finalement. Non pas l'enjeu éthique, mais l'éthique de l'embarras.
Ça me va.
Merci beaucoup.
Merci
il
à vous.
Pleut de plus en plus, hein, derrière nous, devant
c'est...
vous.
Voilà, c'est la tempête. C'est tout ce qu'on ne maîtrise pas.
Et c'est peut-être la tempête intérieure qui est en train de nous travailler aussi.
Mais
avec
ça fait des beaux
dites.
Paysages.
Ça fait des beaux paysages. Merci Marion Muller-Cola.
Merci Caroline.
On se retrouve pour le dernier épisode, si la tempête veut bien nous laisser en paix. L'épisode suivant, on travaillera encore une fois cet aller-retour entre votre travail collectif et votre réflexion personnelle, entre le travail d'éditrice que vous menez maintenant à Labor et Fides, cette maison d'édition genevoise, et le travail que vous faites vous-même dans votre croyance et votre foi. À demain.
À demain. T'as pas trop froid, t'es sûre? Tu veux pas un plaid?
C'était À Voix Nue avec Marion Muller-Collard, réalisation Guillaume Baldi, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.